Dieu élevé au ciel. Tu es Dieu. Tu es tout puissant. Tu es l'incomparable. Tu es digne, ô Éternel, notre Dieu, d'être loué, adoré, exalté et élevé. Tu es digne, notre Dieu, parce que c'est toi qui nous as appelés. C'est toi qui as fait de nous tes enfants. C'est toi, ô notre Dieu, qui a fait que nous puissions être là ce matin. Tu es digne, Papa, parce que nous pouvons compter sur toi. Tu es élevé, Papa, parce que tu nous as fait un cadeau magnifique, Christ Jésus, qui est mort et ressuscité pour nous. Quelle grâce! Ce matin, je m'humilie devant toi. Cette parole que je vais apporter à ton peuple, elle n'est pas la mienne, elle est la tienne. Tu me l'as donnée afin que ton peuple soit nourri. Tu m'as nourri le premier et je te suis reconnaissant. Et maintenant, je vais partager ce que tu m'as donné à ton peuple. Seigneur, merci. Merci de nous préparer à l'écoute de ta parole. Que ta paix et ta grâce soient avec chacun de nous, même les enfants. Tu parles même aux enfants. Gloire te soit rendue au Père, dans le nom de Jésus. Amen. Ce matin, bien-aimés, je vous propose que nous méditions dans le livre de Josué. Vous connaissez bien le livre de Josué, et chapitre 1. Et nous lirons le 9 premier verset. C'est le message de Dieu à Josué. Qu'est-ce que l'Éternel dit à Josué? Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis les déserts et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Éthiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche. Enfin, de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. Pourquoi je dois méditer jour et nuit? Et pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu aura du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Voici les messages que Dieu a donné à Josué. C'est aussi un message pour chacun de nous. Le thème de ce message, c'est l'encouragement de Josué par Dieu. Dieu encourage Josué. Il n'est jamais facile, bien-aimé, de succéder, comme vous le savez, tous et toutes, à des grands leaders qui ont marqué leur époque. Ce n'est pas facile, hein? De succéder à un grand leader, de dire que moi je vais remplacer tel grand leader, ce n'est pas évident. C'est facile. C'est difficile, pardon. Nous avons ici l'exemple de Moïse, grand serviteur de l'Éternel, un grand leader spirituel. Moïse, Dieu l'a choisi. Il a choisi pour conduire son peuple, le peuple israélite, hors de l'Égypte. C'est ce qu'il a fait. Et aussi avec beaucoup de difficultés, ce n'était pas facile pour lui. Mais Moïse n'a pas pu faire entrer le peuple dans la terre promise. Il est mort, comme nous dit les textes. Qu'a fait l'Éternel ? L'Éternel s'est choisi un homme. Il s'est choisi un homme qui ne sort pas de l'ordinaire. Un homme qui est connu par le peuple israélite. Serviteur de Moïse. Il est bien dit serviteur de Moïse, cet homme. Cet homme, de son métier, il fut tailleur de pierre. Vaillant soldat. Un bon guerrier. Chef de l'armée. Un homme courageux, un homme fidèle, un homme aussi doué en stratégie. Il était aussi bien qualifié. Ensuite, il était rempli de l'esprit de sagesse. Bien aimé, par ses différents dons et talents reçus de Dieu, par sa formation et par ses expériences, tout cela lui fait valoir plusieurs victoires face à l'ennemi. Cet homme, son nom encore une fois c'est qui ? Josué. Son nom c'est Josué bien-aimé. Qu'est-ce que signifie Josué ? Quelqu'un peut me donner la réponse ou donner à l'assemblée la réponse ? Qu'est-ce que signifie Josué ? Le nom signifie quoi? Josué signifie que l'Éternel sauve. Josué signifie aussi que l'Éternel est salut. Nous le voyons, nous avons chanté, nous avons pris la Sainte Cène. Ce qui correspond bien au nom du Seigneur Jésus dans le Nouveau Testament. Jésus sauve. Josué, l'Éternel sauve. L'Éternel est salut. Bien-aimé, au verset 2, Dieu appelle Josué à la fonction des successeurs de Moïse. La tâche est lourde. Elle est difficile. Elle n'est pas si simple. Pourquoi? Simplement parce que l'œuvre du Seigneur devrait se poursuivre. L'œuvre, c'est quoi? C'est aller à Canaan, la terre promise. L'œuvre du Seigneur devait se poursuivre. Moïse est parti, il est mort, mais Dieu a trouvé un remplaçant. Donc, il devait maintenant, Dieu l'appelle à ses fonctions. Une tâche qui n'est pas si simple. Comme Dieu est fidèle à ses promesses, nous avons lu ici au verset 3 et 4 que l'Éternel a renouvelé à Josué et à son peuple, parce qu'il aime bien son peuple, sa promesse est du pays qu'il est en train de leur accorder. Dieu est bon, n'est-ce pas? Amen. Au verset 5, Dieu confirme à Josué les dons de son autorité et de sa présence fidèle à ses côtés. Au verset 6 et jusqu'au verset 9, Dieu a donné à Josué des commandements. Il a dit à son serviteur, fortifie-toi et prends courage. Obéis à la loi que mon serviteur Moïse t'a prescrit. Et au final, c'est quoi? Tu réussiras dans toutes les entreprises. On peut dire aussi que tu réussiras inévitablement. Pourquoi? Encore une fois, parce que simplement, cette cause d'amener les enfants d'Israël dans la terre promise n'est pas la cause de Josué, n'était pas non plus la cause de Moïse, mais c'est la cause de Dieu. Alors, quel rapport y a-t-il dans ces textes entre cette époque où Dieu s'est choisi un homme, et nous aujourd'hui. Quant à nous, nous ne sommes pas comme Josué ou le peuple israélite à conquérir un pays. Non, nous ne sommes pas là pour conquérir un pays. Mais nous, aujourd'hui, bien-aimés, nous avons chacun de nous une mission à accomplir. Nous avons chacun de nous une mission à accomplir. Quelle est cette mission? Celle de faire avancer le royaume de Dieu. Faire avancer le royaume de Dieu dans cette ville déjà où nous sommes, où Dieu nous a placés. Nous venons peut-être de quatre coins, des différentes villes, et nous nous rassemblons en ce lieu où nous appelons EPEC, l'Église protestante de Créteil. Donc notre mission, c'est de faire avancer le royaume de Dieu dans cette ville. Mais la parole de Dieu ne s'arrête pas là, il nous dit, même aux alentours de cette ville que vous y êtes, vous allez aussi annoncer. Nous avons l'expérience des Actes des Apôtres. Autour de nous, nous avons des villes. Nous avons des villes contiguës. Maison Alfort, Limeil-Brévannes, Valenton, Bonneuil, etc., etc. Et là aussi, nous avons une mission à accomplir. La parole de Dieu va encore plus loin, jusqu'aux extrémités de la terre. Nous avons aussi une mission à accomplir. Comment? En nous jumelant avec d'autres églises. Vous savez bien que nous avons un projet avec la Côte d'Ivoire. Nous avons un projet de jumelage avec l'Haïti. Là aussi, nous y sommes. C'est notre mission à accomplir pour chacun de nous. Bien-aimés, c'est pourquoi si nous voulons rentrer dans le plan de Dieu, si chacun de nous, nous disons que je vais rentrer dans ces plans, oh mon Dieu, en tant qu'Église et en tant que disciple de Christ, ayons la pensée de Christ. Ayons la pensée de Christ. La pensée de Christ est cette pensée de travailler ensemble. Nous devons travailler ensemble, alors unissons-nous pour la cause de Dieu. C'est son royaume que nous voulons faire avancer. Vous savez bien, une année vient de se terminer. Comme nous sommes toujours calqués, bien-aimés, sur l'année scolaire, voici que cette année scolaire vient de commencer. On n'est que deuxième mois, septembre, octobre. Octobre n'est pas encore fini. Pour cette nouvelle année, il y a des défis à relever. Nous avons des défis à relever. En qualité de qui? D'abord, d'enfants de Dieu, des défis personnels. Et ensuite, nous avons des défis à relever en tant qu'Église. En tant qu'Église, si on nous a placés ici, si on te pose la question, dimanche, où tu vas? Je vais à l'Église protestante de Créteil. Donc, en tant qu'Église, nous avons des défis à relever. Je parle en tant que membre. Peut-être ce matin, il y a ceux qui nous visitent qui ne sont pas membres de notre communauté, mais qui sont membres de d'autres églises. Là aussi, cette parole est la vôtre. Parce que vous avez aussi des défis à révéler aussi dans vos églises respectives. Ce que je veux vous dire n'est pas une prophétie, mais c'est une demande à Dieu. Le Dieu de l'impossible. À ces dieux des miracles. En qualité de membres, par la foi, nous savons que le Seigneur multipliera les nombres que nous sommes. Amen. Il multipliera les nombres que nous sommes, parce que c'est un Dieu fidèle. Dieu nous fera grâce. Et là encore, que sa volonté seule soit faite. Est-ce que par la foi, nous y croyons que Dieu multipliera les nombres que nous sommes? Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu, à ce Dieu de l'impossible. Cette nouvelle année, bien-aimés, nous commençons par quelque chose de merveilleux. L'installation du couple pastoral. Amen. C'est une année unique. L'année prochaine, ce ne sera pas encore l'installation pour deux fois pour notre pasteur.
pasteur.
Cela a été fait une fois, et voilà. Donc, c'est une année unique pour chacun de nous. Une année unique, aussi une année de grâce. Une année de grâce qui nous apportera, comme le frère a dit, nous apportera de joie. Mais, en tant qu'enfant de Dieu, il a bien dit, hein, ça nous apportera aussi des soucis, n'est-ce pas? Pas seulement que de la joie, on aura aussi des soucis. Bien qu'elle soit une année unique et une année de grâce. Il nous apportera du bonheur, c'est vrai, mais aussi des épreuves. Nous devons nous frotter les mains en attendant encore les épreuves à venir. Car nous ne savons pas ce qu'elle nous réserve. Nous ne savons pas ce que l'année nous réserve. Dieu, par son omniscience, il sait ce qui va nous arriver. Il sait ce qui va arriver à chacun de nous personnellement. Il sait ce qui va arriver dans nos familles. Il le sait parce qu'il est omniscient. C'est un Dieu qui sait tout. Mais une chose est certaine. Pour nous qui aimons notre Dieu, pour nous qui nous proclamons que nous sommes ses enfants, hein, nous savons que Dieu, ça a été dit encore ce matin, que Dieu est avec nous. Il nous accompagnera comme il était avec son serviteur Josué. Il l'a accompagné. Voyons maintenant comment l'Éternel a-t-il accompagné et encouragé son serviteur Josué. Pour Josué, une année nouvelle, une étape, pour lui, une nouvelle étape commencée. Un nouveau ministère. Lui qui était tailleur de pierre, homme courageux, qui lui a fallu des victoires, etc. Et maintenant, il se trouve devant une expérience de vie dont lui-même ignore. Il ignore tout. Peut-être c'est pas tout, parce qu'il a travaillé avec son serviteur, donc avec Moïse, les grands serviteurs de l'Éternel. Il sait et il connaît. C'est pourquoi l'Éternel dit à trois reprises à Josué. Comment il l'a encouragé? Il lui dit à trois reprises, au verset 6, au verset 7 et au verset 9. Il lui dit quoi? Fortifie-toi. Il peut ajouter Josué. Prends courage, Josué. Est-ce que Josué doutait-il de la grandeur de la puissance de Dieu? Nous pouvons dire que non. Personne n'y pense que Josué doutait de la puissance de Dieu ou de la présence de Dieu dans sa vie. Malgré qu'il lui dit, fortifie-toi. Pourquoi Dieu lui a-t-il dit, fortifie-toi? Vous savez bien, en tant qu'humain, Josué se sentait faible, n'est-ce pas? Il se sentait faible et découragé. Il dit, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi Dieu a répété à trois fois l'envoi. Il pouvait dire une seule fois, Josué, fortifie-toi. Non, fortifie-toi. 6, 7, fortifie-toi. Encore 9, fortifie-toi. C'est parce qu'il savait. Et Dieu va encore plus loin. Qu'est-ce qu'il a encore dit? Il a dit, ne t'effraie pas, Josué. Ne t'épouvante pas, Josué. C'est que Josué était effrayé. C'est que Josué était épouvanté. Il était terrifié. Par quoi? Par l'idée de prendre les commandements de ce peuple. Ayant travaillé à côté de Moïse, Josué connaissait les agissements et les réactions du peuple israélite. Il savait, tantôt ils étaient fidèles à Dieu, tantôt ils étaient rebelles à Dieu. Et devant tout cela, Josué se disait, mais Seigneur, mais comment je vais faire? C'est dur pour moi. Fortifie-toi, prends courage. Ne t'effraie point. Ne t'épouvante pas. Oui, ce peuple était parfois obéissant et rebelle. Josué avait ses épaules. Vous savez, quand vous portez une charge, il avait cette charge sur ses épaules. C'était tellement lourd pour lui. Tellement lourd pour lui, ses responsabilités. Mais ce qui est formidable, le Dieu ne manqua pas de l'encourager. Il ne manqua pas de l'encourager. Il dit encore, « Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi. Comme j'ai été avec Moïse, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. » Il est rassuré, Dieu l'encourage, Dieu lui dit, vas-y, C'est toi que j'ai choisi. Je serai avec toi. Bien-aimés, nous aussi. Nous avons aussi des problèmes. Nous avons aussi des soucis. Nous avons... Parfois, nous nous décourageons. Nous passons par des moments difficiles. S'asseoir avec nos enfants. S'asseoir avec nos époux. S'asseoir avec nos épouses. S'asseoir avec nos collègues de travail. S'asseoir même avec des frères et sœurs dans l'église. Dans nos quartiers. Bien-aimés. Dieu dit, tant que tu es avec moi, tant que tu crois en moi, ne t'effraie point, je ne te délaisserai point, je serai avec toi. Et cette parole, nous l'avons aussi dans Matthieu 28, où Jésus dit, ça a été répété encore ce matin, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps. Donc, je vais compatir à vos problèmes. Je vais compatir à vos difficultés. Je vous encouragerai dans vos problèmes. Je ne vous abandonnerai jamais. Je ne vous délaisserai jamais. Mais je vous dis seulement, fortifiez-vous et prenez courage. Vous savez, en tant qu'église ou en tant que disciple de Christ, nous aimerions faire tant de choses positives pour Dieu. Et peut-être que nous ne nous sentons pas capables. Nous disons, est-ce que je veux arriver à faire ça pour Dieu? Je me pose des questions. J'ai des doutes. Et voire même, j'ai la peur de m'engager. De faire ceci, des bonnes choses pour Dieu, mais j'ai peur. Les pasteurs lancent l'appel. J'entends l'appel, mais j'ai peur de m'engager. Et chacun a ses raisons. Peut-être que j'ai peur de m'engager parce que je n'habite pas la ville de Créteil. J'habite très loin de Créteil. Donc, je ne peux pas. J'ai peur de m'engager parce que mon travail ne me permet pas. Ma foi est faible. Ma santé ne me permet pas. Mes proches, ça ne va pas non plus dans la famille. Donc, j'ai peur de m'engager. Après ça, Satan s'est dit, mais il faut être sage. Il faut être réaliste et regarde ça. Pourquoi tu veux t'engager à ça? Tu veux t'engager pourtant qu'il y a ça. Et pourtant que nous voulons faire tant de bonnes choses, des choses positives pour Dieu. Prenons quelques exemples de choses positives. Mon engagement à assister à des réunions de prière. Ça, ce sont des choses positives en tant que disciples de Christ et aussi en tant qu'assemblée. Nous bénissons Dieu de voir que Dieu aime son Église. Il aime, il nous aime. Aujourd'hui, quand je regarde, nous avons tous constaté qu'il y a deux sœurs qui sont, ce matin, ils sont là dans cette salle. Ces deux sœurs ont pris l'engagement de venir à la réunion des prières. Et c'est là depuis la rentrée, depuis septembre. Ces deux sœurs, je ne les citerai pas, mais elles sont là. Ceux qui viennent à la réunion des prières, le voient. Ils se sont ajoutés. Dieu a ajouté à ces noyaux qui étaient là, deux personnes pour la réunion des prières. La réunion des prières est vitale. Dieu a besoin des combattants et des combattantes. Ces deux personnes sont là. Nous bénissons le Seigneur de ce que Dieu fait. Et vous aussi, bien-aimés, qui ne formez pas ce noyau, Dieu vous appelle, peut-être que vous avez l'engagement, vous dites que oui, je vais m'engager positivement pour aller à la réunion de prière. Mais il y a ça qui me gêne. Je doute un peu. Non, les deux sœurs ont pris leur engagement. Gloire soit rendue à Dieu. Et gloire soit rendue à Dieu aussi, à ceux qui rejoindront aussi le groupe. Parce qu'il y en a qui se posent des questions, qui veulent s'engager aussi positivement. S'engager à assurer la propreté dans les deux salles que Dieu nous a données. S'engager à assister au culte. Il y a un grand nombre qui est là ce matin. Mais ce nombre n'est pas même le 1/10 dans nos réunions de prière. Même quand nous avons les jeûnes et prières, ce nombre n'est pas là. Ce n'est pas qu'en tant que il faut que je sois à la réunion de prière parce que je suis membre de l'église de Créteil. Non. Vous qui n'êtes pas membre ce matin, vous qui êtes fidèle, qu'on voit tous les dimanches à l'église, vous y êtes aussi conviés à assister à la réunion de prière, à prendre cet engagement solennel devant Dieu. Amen. Vous êtes là, je vous vois. Dieu vous aime. Il vous dit seulement, mon peuple, prenez courage, engagez-vous. Je serai avec vous. N'ayez pas peur, nous tiendrons. Quel que soit que l'ennemi essaye de nous tirailler, mais nous tiendrons. Venez, venez assister à des réunions de prière. Prenez des engagements à l'assistance, comme j'ai dit, au culte, à lire la Bible, à évangéliser, ces projets d'avenir. Nous tiendrons. Nous aurons des tribulations, nous aurons des attaques, vous verrez, quand nous y engagerons. Mais aujourd'hui, nous nous préparons. Nous nous préparons et nous y arriverons et nous tiendrons grâce à Dieu. Grâce à Dieu, nous tiendrons. Je m'engage à aimer Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme, en tout et pour tout. C'est là les commencements. Je m'engage à aimer mes frères et sœurs, à faire du bien envers mes frères et sœurs autour de moi, que ce soit au travail, partout, autour de moi. Je m'engage à un ministère. Ah, il y en a qui veulent s'engager à un ministère. Ne vous effrayez pas. N'ayez pas peur. Ne craignez rien. Dieu est avec vous. Dans votre engagement, il est là et vous soutiendra. C'est ça qu'il attend de vous. C'est ça qu'il attend de nous, cet engagement, bien-aimé. Oui, nous pouvons nous sentir parfois petits, dépassés devant l'engagement que je vais prendre, submergés comme Josué y était. Mais notre part, bien-aimé, c'est d'agir. Je projette, j'agis. J'attends le faveur de l'Éternel et je m'engage. Parce que dans tout projet, je me présente devant Dieu. Je lui soumets mon projet et j'ai dit, Seigneur, voici ce que je veux faire pour toi. Dans ton église, au travail, partout où je suis, voici ce que je veux faire. Dans ma famille, en tant que papa, en tant que maman, en tant qu'enfant, Seigneur, tout projet, associons Dieu dans tous nos projets. Dans mes études, ma recherche du travail, la recherche d'une âme sœur. Approchons-nous de Dieu. Agissons. Vous savez bien que quand nous soumettons nos projets à Dieu, et Dieu vient à nos secours, et il nous accompagne dans ses projets. Je vois les banquiers, ils disent, « Oh, monsieur tel ou madame tel, nous allons vous accompagner dans votre projet. » Mais Dieu fait aussi mieux que les banquiers. Il nous accompagne aussi dans nos projets. Il nous délaisse point. Il nous abandonne point. Il est vivant. Alléluia. Bien-aimé, dans 1 Roi 20, au verset 22, nous lisons ceci. Alors le prophète s'approcha du roi d'Israël et lui dit, ça c'est le prophète Samuel, va, fortifie-toi, examine et vois ce que tu as à faire, car au retour de l'année, le roi de Syrie, Ben-Hadad, hein, montera contre toi. Ici, le roi d'Israël, c'est le roi Akab. Ce n'est pas marqué, mais c'est le roi Akab. Le roi de Syrie, lui, c'est Ben-Hadad. Il montera contre toi. Donc, la parole vient de Dieu qui donne à son serviteur pour aller dire à Akab, va, fortifie-toi, examine et vois ce que tu as à faire au retour de l'année. Ici, au retour de l'année, j'essaie de chercher de comprendre c'est quoi au retour de l'année. Au retour de l'année veut dire simplement que dans le Proche-Orient ancien, souvent les batailles s'est livrées au printemps. Donc, Dieu avertit Akab par la bouche du prophète que Ben-Hadad reviendrait, il va revenir au printemps suivant. Et puis il lui dit, va, fortifie-toi. Fortifie-toi pourquoi? Afin qu'il se prépare au combat pour affronter, pour ne pas se décourager. Nous aussi, nous sommes pareils. Nous prions, nous sommes dans un combat. Nous prions, Dieu nous délivre. Alors, frottons-nous les mains pour ce qu'il y a à venir. Il y a encore des combats à venir. Nous allons encore lutter. Satan ne nous laissera jamais, jamais tranquille. Nous sommes ses cibles préférées, bien-aimées. Il nous attaquera. Mais la seule assurance que nous avons, qui est le plus grand, le plus fort, est avec nous. Ça, c'est une assurance qu'il est avec nous. C'est comme nous, quelles que soient les circonstances. Bien-aimés, ne nous décourageons pas. Ne nous décourageons pas, bien-aimés. Le découragement vient du malin. Le malin, c'est lui qui cherche à nous encourager. Il fera tout son possible pour nous diminuer, nous abaisser, nous empêcher de nous engager. Ça, c'est l'œuvre du diable. Il va essayer de nous empêcher de nous engager. Ça sera la réunion de prière, etc., pour balayer, pour tout ce que nous avons cité, des choses positives pour le Seigneur. Satan va essayer de faire quoi? De nous empêcher. Il va nous empêcher de nous préparer. Il cherchera à nous arracher de notre position en Christ. Vous savez que nous tenons une position merveilleuse de prince et de princesse en Christ et Jésus. Nous sommes des princes et des princesses. Et cette position, le diable est jaloux. Il n'aime pas nous voir dire que moi je suis le prince du Seigneur, je suis la princesse du Seigneur. Il n'aime pas. Il va chercher par tous les moyens pour te dissuader, pour essayer de t'empêcher et d'y aller. Parfois, il nous met dans une confusion totale. Il dit, est-ce que tu es réaliste? Regarde ceci, regarde cela. C'est comme cet adage français qui dit, j'ai la tête sous l'eau. J'ai la tête sous l'eau, je ne peux pas. Parce que le diable dit, tu veux sortir la tête, il fait ça. Laisse là. Ne lui donnons pas cette occasion. Il a été vaincu à la croix. Satan a été vaincu à la croix, ne lui donnons pas cette occasion. C'est pourquoi la parole de Dieu nous encourage dans les psaumes 27 au verset 14 en ces termes. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Mon peuple, ça c'est moi qui mets mon peuple, espère en l'Éternel. Espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Est-ce que dans tous nos problèmes, est-ce que dans tous nos projets, voulons-nous espérer en l'Éternel, bien-aimé? Mais si nous voulons espérer à l'Éternel, cela aussi implique autre chose, n'est-ce pas? C'est l'attente. Espérer en l'Éternel, en même temps, il faut attendre. Il faut attendre. Attendre l'intervention de Dieu. Jérémie disait, mais il ne faut pas attendre l'intervention de Dieu en murmurant. Il faut l'attendre en silence. Parce que c'est Dieu qui dit, que tu dis que c'est le Dieu de l'impossible, il agira. Il agira pour moi. Donc, je dois attendre le secours de l'Éternel en silence, sans murmure. Mais quant aux engagements, j'attends, je me prépare et forcément, je dois compter sur Dieu. Je me lève, je dis, Seigneur, je veux travailler pour toi. Je m'engage pour toi. Et j'attends son secours parce que le feu vert vient de lui. Mais je demande à Dieu, je m'associe donc avec lui dans ses projets. Nous connaissons bien l'histoire de Gédéon, n'est-ce pas? Juges 6 au verset 14. Là aussi, Dieu a dit à Gédéon, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi et qui t'envoie? N'est-ce pas Dieu qui nous envoie d'aller conquérir le royaume? Ce n'est pas Dieu qui va nous envoyer, bien-aimés, pour aller à Valentin, pour évangéliser à tel point. Ce n'est pas lui qui nous envoie. Esaïe ne pouvait dire que Seigneur, après que tu m'aies purifié, envoie-moi. Nous aussi, Dieu veut nous envoyer. C'est lui qui nous envoie. Oh, mais moi, je n'ai pas été comme les pasteurs à l'école biblique et je ne connais pas grand-chose. Mais ce que tu connais, je t'envoie quand même, vas-y. Avec ce que tu connais, va parler à telle personne. Ce n'est pas toi qui les convaincras, c'est moi. Mais toi, fais ça, fais ta part. Oui, c'est moi qui t'envoie. Pourquoi Dieu a-t-il besoin de nous encourager sans cesse? Parce que nous sommes ses enfants bien-aimés. Il nous aime tant. Comme nous aussi, nous avons nos enfants, nous les encourageons jour après jour. Qu'ils tombent, qu'ils fassent des bêtises. Mais nous sommes là pour les encourager. Nous aimons nos enfants, nous les encourageons. Les pasteurs aiment les enfants que Dieu lui a donnés, les troupeaux à paître. C'est pourquoi il les encourage. Les anciens qui s'associent à lui, aussi dans le même temps, ils aiment, ils encouragent. Les conseils, chacun de nous, nous nous encourageons les uns et les autres. Mais c'est lui qui nous encourage depuis, c'est Dieu. Parce qu'il a fait pour Josué, il a fait pour Moïse, il a fait pour Abraham un peu plus haut, Jacob, Job. Il a fait aussi plus près de nous, avec Paul, etc. Pierre, Jacques, Jean, il les a encouragés aussi. Et c'est même Dieu n'est pas mort, n'est-ce pas? Dieu est vivant, il est vivant éternellement. Il nous encourage et il nous encouragera jusqu'à la fin du temps. Vous savez, nous sommes ses enfants, nous sommes ses ouvriers et ouvrières dans son entreprise bénie. Nous travaillons, ceux qui ne sont pas encore, mais en tant qu'enfants de Dieu, rejoignez l'entreprise. Parce que c'est une entreprise bénie et bien-aimée. Notre marche sur cette terre est parsemée de preuves, des embûches, des difficultés. Mais dans notre faiblesse, ne regardons jamais, jamais aux circonstances. Regardons à celui qui encourage. C'est Dieu, notre Dieu. Le dernier point que je voudrais aborder avec vous, ce sont les meilleurs moyens que Josué devrait mettre en place pour mener à bien sa tâche, donc de réussir. Parce qu'il lui a dit que tu réussiras. Mais quels sont les moyens que Dieu lui donne? Il n'y a pas beaucoup. Hein? Il lui dit seulement que l'assurance, je t'assure que je suis avec toi. Ma présence est avec toi. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai pas. Je serai avec toi tous les jours, tous les temps, en toutes circonstances. Bien-aimé, dans nos soucis, dans nos problèmes, Dieu est avec nous. Il ne nous abandonne pas. Ne promenons jamais des regards inquiets, que Dieu n'est pas là. Entre parenthèses, vous rappelez Martin Luther, ce pasteur, et un jour il était comme ça, il ne pouvait plus, sa femme vient, elle était habillée, tout en noir, de la tête jusqu'aux pieds. Et puis lui, il regarde, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais ton Dieu est mort. Il dit, mais Dieu, non, mon Dieu n'est pas mort, mon Dieu est vivant. C'était fini pour lui. Il s'est relevé et il est parti. Notre Dieu n'est pas mort. Là, son épouse a utilisé ses moyens pour réveiller son mari. Que Dieu n'est pas mort. Si on lui parlait, peut-être qu'il allait comprendre. Il a dit, oui, je sais. Mais là, il a utilisé donc symbole fort et il s'est réveillé. Il a dit, non, mon Dieu n'est pas mort. Nous aussi, notre Dieu n'est pas mort. Il est vivant et il est vivant éternellement. Deuxième point, que les livres de la loi ne s'éloignent point de sa bouche. Il ne faut pas te détourner, ni à droite ni à gauche. Ce sont les moyens que Dieu a donnés à Josué. La réussite de Josué, bien-aimé, tout comme la nôtre, se trouve dans la méditation profonde et dans l'obéissance totale à la parole de Dieu. C'est ça la réussite. Dieu bien-aimé a promis à Josué de le bénir. Il lui a dit que tu réussiras. Il a promis de le bénir dans l'exercice de ses fonctions, de ses responsabilités, bien-aimé. Et Dieu veut aussi nous bénir dans nos engagements personnels. Il veut vous bénir. Comme ces deux sœurs qui ont pris l'engagement de venir à la réunion de prière, Dieu les a bénis. Vous aussi qui voulez vous engager à venir dans la réunion de prière, Dieu vous bénira. Je ne dis pas que Dieu ne vous a jamais béni. Je ne dis pas ça. La vie en elle-même que Dieu vous donne, c'est une bénédiction. Mais là seulement, c'est dans, je parle dans le plan des engagements. Je m'engage, Dieu me bénira. Dieu me bénira. Parce qu'il a dit à Josué et il a dit aussi à son peuple. C'est pourquoi, bien-aimé, comme ce matin, en vous regardant, accueillir la parole de Dieu dans un cœur bien préparé. Vous avez accueilli la parole de Dieu dans un cœur bien préparé. Vous avez entendu la parole de Dieu. Donc Dieu vous a préparé à accueillir cette parole merveilleuse. C'est une victoire. C'est une victoire de ce que vos cœurs ce matin se sont préparés pour accueillir la parole de Dieu, la vérité. Parce que Dieu est véridique, il va parler, il parle. Et vous l'avez accueilli avec joie. Vous avez préparé. Donc Dieu vous a préparé et c'est une victoire. C'est aussi une victoire tout en cherchant à comprendre la parole de Dieu. Vous savez, il y a des mardis, nous avons des réunions, l'étude biblique. Nous avons des enseignements par le pasteur qui est là. Il nous enseigne la parole de Dieu. Et là aussi, cherchant à comprendre en profondeur les Écritures, par les enseignements que nous recevons, c'est aussi une bénédiction. C'est aussi une bénédiction. C'est pourquoi, dans nos réunions de prière, nous devons aussi nous engager de prier en permanence pour les couples pastoraux et ceux qui l'entourent, et prier aussi les uns et les autres. Donc, bien-aimés, cette rentrée que Dieu donne à chacun. Pour cette rentrée que Dieu donne à chacun et à chacune, un cœur nouveau, un cœur transformé, un cœur changé, un cœur purifié, un cœur libéré. Libéré pour mettre en pratique sa parole et ses enseignements. Mais sachons une chose. Qu'à un moment de notre vie chrétienne, bien-aimés, nous serons obligés de faire face au découragement. Ce matin, je vous l'ai dit sincèrement, nous serons obligés de faire face au découragement. Les découragements sont là. Si Dieu a encouragé Josué, il a encouragé Moïse, c'est parce que nous aussi, nous aurons des moments de découragement dans notre vie chrétienne. Peut-être nous les avons déjà, mais attendez-vous à d'autres découragements à venir. Mais si je vous dis, attendez-vous ou attendons-nous, moi aussi, à ces découragements à venir, mais nous avons l'assurance. Nous avons l'assurance qu'il est là. Le psaume 27 nous l'a dit, espère, espère, espérons, espérons. Continuons à espérer toujours en Dieu. Parce que Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est un Dieu qui fait des miracles. Il fait encore des miracles aujourd'hui dans nos vies. Il opère des miracles dans nos vies, des changements inattendus. Parce que c'est lui qui dirige. C'est son œuvre. Nos vies lui appartiennent. Nos vies lui appartiennent. Oui, bien-aimé. Nous aurons des découragements. Nous aurons des échecs. Dans des domaines différents. Dans des domaines différents. Tellement que le découragement essaye de prendre les dessus, mais rassurons-nous que Dieu est avec nous. Dieu nous dit, mon peuple, prenez courage. Ce qui veut dire persévérer. Endurer les souffrances même, tenir bon, car les temps sont difficiles, mes enfants. On peut aussi s'interroger, les interrogations sont là. Ce sont les temps que Dieu utilise pour nous former. Dieu nous utilise pour nous former. Dans les difficultés, dans les épreuves, Dieu les utilise parfois pour nous former. Je ne dis pas, je prends un exemple, que c'est lui qui a commis un acte malveillant ou vol ou adultère, par exemple. Que celui-là, il doit faire quoi? Ah non, je fais ça. Je ne sais pas, Seigneur, toi tu sais toutes choses. Mais c'est toi qui as cherché les problèmes. Ce n'est pas Dieu qui a cherché les problèmes, c'est toi-même qui l'as cherché. C'est toi-même qui l'as voulu. Mais quand je sais que cette épreuve m'arrive, que ce n'est pas moi qui a suscité cette épreuve, je ne sais pas d'où ça vient. Cette maladie peut-être, je ne sais pas d'où ça vient. Ces circonstances inattendues, je ne sais pas d'où ça vient. Dieu dit, mais moi je sais. Dans tes interrogations, je suis là. Je ne t'abandonne pas, je t'entends, je t'écoute. Et je serai avec toi jusqu'à la fin des temps. Dieu utilise ces moyens pour nous former nous transformer et aussi surtout pour nous faire arriver vers la statue de Jésus-Christ, notre Seigneur. Pour finir, je vais lire un verset dans 1 Chroniques 28, verset 20. Ce verset nous dit ceci. C'est le roi David. Le roi David s'adresse à son fils Salomon. Il lui dit, Salomon, donc il dit, fortifie-toi, encore une fois, prends courage et agis. Agis, ne crains point, ne t'effraie point, car l'Éternel Dieu, mon Dieu, sera avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, jusqu'à ce que tout l'ouvrage pour le service de la maison de l'Éternel soit achevé. Quel encouragement de David à son fils Salomon, qui devait les succéder, qui devait aussi poursuivre la construction du temple. Le but que Dieu poursuit est de nous préparer. Notre frère Stéphane l'a dit, pour nous préparer pour la plus belle des rencontres, lorsque Jésus-Christ reviendra. Et lorsqu'il viendra chercher les siens. C'est ça, nous nous préparons pendant tous ces temps. Mais pendant ces temps, Dieu n'est pas un entrepreneur qui a fait faillite. N'ayons pas peur de nous engager, bien-aimés. Donc Dieu n'est pas cet entrepreneur dont les machines dans son entreprise sont en panne. Non, ces machines fonctionnent. Alors, n'ayez pas l'idée que les machines, c'est nous. C'est pourquoi je parle, les ouvriers et les ouvrières, c'est nous qui sommes les ouvriers et les ouvrières dans l'entreprise du Seigneur. Nous aussi, nous ne sommes pas en arrêt. Ne marquons pas un point d'arrêt. Réveillons-nous. Mettons-nous debout, agissons pour que le royaume de Dieu avance dans cette ville et aux alentours de cette ville de Créteil. Car Dieu n'abandonne jamais l'ouvrage de ses mains. Alors, ayons confiance en lui, bien-aimé. Son œuvre dans nos vies se poursuivra et elle réussira. Dieu travaille dans chacun de nous. Tout ouvrage de sa maison doit être achevé parce que nous sommes le temple du Seigneur. Alors, pour cela, Dieu y travaille dans nos vies. Dans chacune de nos vies. Quelle est notre part? Le dernier mot, notre part, travaillons avec lui. Amen. Que Dieu vous bénisse.